RMC Intégral Sport.
Flora Messi.
Salut à tous, bienvenue dans l'Intégral Sport sur RMC. On est ensemble pendant une heure jusqu'à 19h. Après, vous retrouverez toute l'équipe de l'After Tour autour de Christophe Cessieux. Mon équipe, à moi, elle est réduite, mais c'est que des numéros 10. Stephen Brun est avec moi ce matin, cet après-midi. Salut Stephen.
Salut Flora, salut à tous. Ce matin, tu sors d'After ou pas toi?
Ouais, je pense en fait, je suis complètement décalée ma tête. On va revenir dans quelques instants avec Jérôme Pinault sur cette 17e étape du Tour de France remportée par Jesper Philipsen, qui relance d'ailleurs complètement la course au maillot vert. Un invité de prestige aujourd'hui avec nous, le nouveau coach du Paris Basketball, Maxime Lefebvre, sera en plateau dans quelques instants. Sa première expérience de coach principal, il nous parlera de ses ambitions et de son parcours aux États-Unis notamment. Et puis une large page foot dans l'Intégral Sport aujourd'hui parce que ça bouge sur le banc des sélectionneurs. Moins d'une semaine après la fin de la Coupe du Monde, on fera le point sur toutes les rumeurs et les dernières infos mercato. La 17e étape du Tour de France vient de se terminer sur RMC avec la victoire au sprint de Jesper Philipsen. Le débrief complet, on vous le rappelle, avec toutes les réactions, c'est à 19h dans l'After Tour avec Christophe Cessieux et toute l'équipe. En attendant, Jérôme Pinault lui fait une petite infidélité pour être avec nous. Salut Jérôme.
Salut, salut à toutes et à tous.
Salut Jérôme.
Si vous n'avez pas suivi l'étape sur l'antenne d'RMC, on va tout mettre au clair pour que vous ayez bien toutes les cartes en main. On se disait pourquoi pas une étape pour les puncheurs aujourd'hui. Mais finalement non, les sprinteurs ont eu le dernier mot et surtout Jesper Philipsen.
RMC, la flamme rouge.
Et c'est parti pour ce sprint final. Attention, il ne faut pas qu'il y ait de chute sur ce final. Un kilomètre encore à parcourir. Et c'est parti pour le sprint. On va s'expliquer entre costauds.
Le sprint est lancé.
C'est parti et ils vont passer derrière nous, juste à côté de nous. Mathieu Van Der Poel en lanceur pour Jesper Philipsen qui a l'air très bien. Clément Russo est aussi dans le match. C'est plus compliqué pour Olaf Koy qui est un peu plus loin. Jesper Philipsen semble bien lancer. Il est premier, facile. Jesper Philipsen, la victoire sans problème de Jesper qui est vainqueur aujourd'hui, qui n'est pas disaster. Jesper Philipsen s'impose à Voiron.
On a entendu la douce voix de Pierre-Yves Leroux. On va revenir
sur ce... C'est vite dit. Hein.
C'est parce que tu l'entends
peur,
trop
hein.
Tous les jours, en fait, je
peur,
pense. Hein. Il met l'intensité. Jérôme, ma première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce qu'on a course gagnée quand on est sprinteur et qu'on est emmené comme ça par Mathieu Van Der Poel?
Alors dans les 300 derniers mètres, j'ai envie de te dire oui, mais avant il a fallu se coltiner tout le départ. L'étape a été complètement folle aujourd'hui avec des attaques dans tous les des groupes devant, des groupes derrière, des groupes au milieu. Philipsen a passé une journée très très compliquée, très difficile. Alors à la fin on a l'impression que c'est facile, mais il fallait être là. Il a fallu passer les quatre premières difficultés du jour. Ça a roulé très vite. Pedersen était devant, il a fallu gérer tactiquement, essayer de trouver des alliés de circonstances. C'est effectivement la photo elle est belle, il est bien emmené, c'est quasiment facile à gagner le sprint, mais qu'est-ce que ça a été difficile jusqu'à l'arrivée.
Ouais Steve, c'était une étape très particulière aujourd'hui, il y a eu quelques échappées, ça a été repris, on ne savait pas finalement si les sprinteurs allaient pouvoir justement disputer ce sprint.
Ouais, c'était une étape compliquée, difficile à gérer. Je pense que Mathieu Van Der Poel à la fin, il a dû comprendre que il allait devoir jouer pour Philipsen plutôt que pour lui-même parce qu'il n'a pas réussi à prendre la bonne échappée et partir en tête. Il y a des garçons qui ont cru. Jesper Stuyven qui a cru très longtemps, mais finalement il s'est fait reprendre à 4 km de l'arrivée. Il y a eu des cassures aussi. Il y a des mecs qui se sont fait des frayeurs. Écoute, c'était une belle petite étape avant une étape dure, avant des choses encore beaucoup plus dur, donc les mecs n'ont pas pu souffler.
C'est ça, il y a trois jours à venir dans les Alpes, on va en parler évidemment, mais l'info aussi du jour quand même, Jérôme, c'est que du coup la course au maillot vert, elle est complètement relancée avec cette victoire de Philipsen.
Oui, il y a cette info est importante. On le s'imaginait pas, Jesper Philipsen revenir si proche de Mats Pedersen dans cette course au maillot vert. Et j'ai même envie de vous dire que le plus beau des théâtres va s'offrir aux sprinteurs pour se départager dans la course au maillot vert. Parce que les sprints intermédiaires jusqu'à samedi, ils vont être intouchables. C'est trop dur avant. Il y a trop de montées avant. Donc
c'est où,
on
c'est
va
à Paris,
assister
c'est à, Paris.
À la bataille sur les Champs-Élysées, Stephen. Et oui, le plus beau théâtre pour les sprinteurs. Alors, certes, il y a la butte Montmartre, mais on se rappelle quand même que Pedersen, Van Der Poel, Philipsen sont capables de passer cette butte Montmartre. Ça va être, je pense, le dernier jour que vont se départager les sprinteurs. Et il n'y a rien de plus beau que de se départager sur la plus belle avenue du monde.
L'idéal, ce serait que dimanche à Paris, il y ait des enjeux, tu l'as dit, pour le maillot vert. Et puis il y a un enjeu pour la troisième place aussi. Peut-être que Paul Sexta va batailler à Paris pour aller gratter Isaac Deto.
C'est pas impossible, hein, Stephen, même si l'autre enseignement du jour, on l'a vu dans cette équipe UAE, on a vu un Adam Yates touché, malade, ouais, complètement à la dérive, et un début de course très, très délicat pour Isaac Del Toro, qui était piégé, hein, dans les 40 premiers kilomètres de la course. Il était relégué à quasiment 40 secondes, du groupe de tête. On parle d'un mauvais placement du côté de son staff. Alors, je connais un petit peu le vélo. Quand ça monte pendant 25 bornes, c'est pas un problème de placement.
C'est un problème de jus, non?
C'est plutôt un problème de Jean Bonneau, et ouais, il avait un peu la malle aux pattes.
Ouais, c'est
Isaac
ce qu'on
Del Toro,
voit,
faudrait pas que ouais, ça se reproduise demain, hein, parce que demain c'est encore plus dur.
Plusieurs étapes pour lui.
Et pourquoi ils ont pas essayé, oui, oui, ils ont pas essayé de le tuer quand, bah, il avait, oui, 40 secondes?
Il manquait de main d'œuvre, Paul Sexas, Stephen, notamment avec ses coéquipiers. Il avait seulement avec lui un coéquipier capable de rouler, c'était Tige Benoît. Sinon c'était Nico Prodhomme et Mathieu Ricciatello, qui eux sont forcément là pour l'aider plutôt vendredi et samedi. Donc on pouvait pas se permettre, et payer dans les autres équipes, il y avait pas non plus beaucoup de main d'œuvre. Et effectivement, tu as raison, s'il y avait eu 2-3 hommes de plus, je me demande ce que serait devenu le sort de Del Toro.
Ça aurait été l'occasion parfaite, en tout cas, pour CMA CGM. On a Geoffrey qui est avec nous au 32-16 aujourd'hui. Salut Geoffrey. Salut Geoffrey.
Salut Geoff.
Geoffrey.
Ouh.
Geoffrey.
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 Réveille-toi Geoffrey, t'es à l'antenne.
Eh ben, tant pis.
Il n'est pas là.
Geoffrey ne nous entend pas. Tant pis. On va rester avec toi, Jérôme. La petite déception, c'est qu'on n'a toujours pas de victoire française quand même sur ce Tour de France. Ah là là. On se disait pourquoi pas aujourd'hui. Et là, quand on voit les étapes qui arrivent, on a du mal à se dire que ça pourrait ne pas se jouer entre les favoris quand même.
Bah écoute, effectivement, on attendait aujourd'hui peut-être un Français. Maintenant, quand on voit le nom du vainqueur au corps aujourd'hui, bah ce coureur-là, on l'a pas. Un sprinter capable de passer les bosses, qui va très vite et qui est capable de régler tout le monde, ou un groupe à 40, il s'appelle Paul Magnier. Mais Paul Magnier, il est resté chez lui puisqu'il a fait le Giro. Donc on en a pas des coureurs comme ça. Et faut pas baisser les bras, parce que demain est une belle étape aussi pour les barouteurs grimpeurs. Nos baroudeurs à nous, qu'ils soient Valentin Paré-Pinte, qu'ils soient Alex Baudin, qu'ils soient Jordan Gégat, il était devant aujourd'hui Jordan, Kevin Vauclin, qu'on a vu aussi faire un beau début d'étape, mais ils sont plus grimpeurs que sprinteurs. Donc on peut espérer demain, pourquoi pas. C'est vrai qu'ensuite,
c'est la dernière chance
entre vendredi... Ah, demain pour les baroudeurs, pour la surprise. On n'est pas à l'abri, par contre, les copains, d'une belle victoire de notre polo sur l'une des deux étapes de l'Alpe d'Huez.
Arrête de nous vendre ça. Arrête de nous vendre ça.
Tout le monde attend ça.
Il va falloir qu'il se découvre de toute façon pour aller chercher Del Toro, à moins que Del Toro plie de lui-même. Mais Paul a un caractère d'attaquant. Il a envie de se faire plaisir.
Il a envie d'aller chercher la troisième,
oui,
avec un peu de panache.
Bien sûr. Et puis surtout, on le freine depuis le début de ce tour. C'est pas du tout dans son caractère. Je pense que dans les deux derniers jours, on va lui permettre de lâcher un peu les chevaux sur les dernières montées, notamment les deux fois de l'Alpe d'Huez. On n'est pas à l'abri de ça. On n'est pas à l'abri de ça. Maintenant, c'est sûr que ça va être compliqué. On a Lini Martinez quand même. Et puis, on a Valentin Paré-Pinte. Donc, ne baissons pas les bras. Le tour se finit à Paris.
Cette course pour le maillot blanc dont tu parles, évidemment, avec cette lutte à distance entre Paul Sexas et Isaac Del Toro. Del Toro qui a la chance quand même d'avoir par moment un lieutenant qui s'appelle Tadej Pogacar pour l'aider quand même au quotidien. C'est pas mal, mais en revanche, on a parlé rapidement d'Adam Yates qui a été très très en difficulté. Je sais même pas à combien de minutes il termine finalement.
Une demi-heure,
voilà, c'est énorme. Est-ce qu'on parle juste d'un coup de mou?
J'ai l'impression que c'était Smecta Imodium pour Adam Yates, Jérôme.
Il est annoncé malade.
Ça, C'était a priori ça hier après le chrono. C'était caca pas terrible. Donc c'était aujourd'hui, hier il s'est quasiment vidé hier après le chrono. Son manager général Mauro Gianetti nous l'expliquait, il était malade, il a passé une nuit correcte, mais ce matin il était vidé de toutes ses forces. Attention à ce que ce soit pas un petit virus qui s'installe dans l'équipe UAE, parce que ça peut arriver, hein. Il va falloir être vigilant. Et puis on parlait de Tadej Pogacar, le coéquipier maintenant de Del Toro, pour essayer de le faire monter sur le podium. Seulement il agit un peu en régulateur de vitesse, tu sais, il monte à la vitesse de Del Toro. Et c'est ce qu'on se disait nous hier hors antenne aussi. Quand dans les prochaines étapes de montagne, Tadej Pogacar va baisser la vitesse, baisser le rythme pour s'adapter à celui de Del Toro, ce sera un signe flagrant que le Mexicain sera un peu moins bien. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra lui mettre la fessée. Et ça, Paul Sexas l'a bien compris.
T'imagines, Steve, là, les explications.
J'imagine tout, mais le problème, c'est que il y a tellement d'écart en montagne entre Pogacar en termes de rythme et Del Toro, et peut-être qu'à un moment Pogacar,
il va dire, t'es bien gentil, mais
un petit kiff et dit, écoute mon grand, là pour moi, j'ai des battements de mon cœur, je suis à 110, toi t'es à 180, donc je suis désolé. Pour toi, je te souhaite bonne chance et moi je vais y aller.
Il y a la stratégie du AE, Jérôme aussi.
Ouais, mais je fais partie de ceux qui disent que. L'autre jour à Solaison, on a vu un Paul perdre du temps. Mais il a pas, s'il y a pas Pogacar, Del Toro est avec Sexas. Pourquoi? Parce que même dans le dernier kilomètre ou à 2 kilomètres de l'arrivée, Pogacar lui parle dans l'oreillette, il lui dit, est-ce que je peux augmenter le rythme? Et le Mexicain lui répond seulement, me lâche pas. Okay. Donc il est taqué. Et donc, si effectivement Poggi se dit, bon, il est gentil le Mexicain, mais moi j'ai envie de claquer l'Alpe d'Huez, s'il le laisse en route, il l'expose à perdre ce podium.
Ouais, on rappelle qu'il y a 3 étapes à venir dans les Alpes. T'en as parlé rapidement de celle qui nous attend demain. A priori, les favoris aujourd'hui ne se sont pas épuisés. Ils sont arrivés avec plus de 9 minutes de retard sur le vainqueur. C'était pas une étape difficile. Les explications, ce sera pour demain.
Ouais, il y aura peut-être une première explication demain, notamment pour la 3e, 4e, la course au podium, elle commence demain. Demain, c'est pas la plus dure, loin de là. La montée vers Orcières est roulante. On peut effectivement penser qu'il y aura pas une grosse bataille, mais attention, parce qu'on est dans la dernière semaine du Tour et la moindre défaillance, le moindre jour un peu moins bien, ce qu'on peut à peu près apercevoir chez Isaac Del Toro, même si on est un peu chauvin et qu'on aimerait bien que ce soit lui qui pète plutôt que notre Français.
Mais c'est pas Paul qui craque aussi.
Eh oui, je sais bien. Mais en tout cas, c'est une belle montée vers Orcières. Ça va être une étape quand même casse-pattes, difficile. Et on peut avoir peut-être quelques enseignements à prendre demain pour les étapes de vendredi et samedi. Et celle de samedi, les copains, elle est terrible.
C'est par superstition, Steve, que tu t'emballes pas trop là pour Paul Sexas.
En fait, ce garçon me surprend tellement. On est sur une 3e semaine de Tour. Il n'y a pas eu, pour l'instant, un seul coup de moins bien. On l'a vu en difficulté. Il a quand même dit, après le plateau de Solaison, que c'était compliqué, qu'il avait souffert. Mais finalement,
mais il gère
pas,
à son rythme.
Pas tellement vu au final sur le bilan comptable. Et s'il enchaîne 3 semaines comme ça avec ce qui va débarquer vendredi, samedi, et que le gamin il bronche pas. Ah putain, c'est exceptionnel. C'est déjà exceptionnel, mais là, ça serait fantastique de s'envoyer 3 semaines pour la première fois de sa vie à 19 balais le Tour de France et terminer vendredi samedi par des étapes qui sont monstrueuses et le pas broncher, ce serait un coup de chapeau pour lui.
Ouais, on aurait des étoiles plein les yeux pour la suite. Merci beaucoup, Jérôme. On te retrouve évidemment à 19h avec Christophe Cessu et toute l'équipe dans l'After Tour. 19h,
pas d'apéro,
jamais.
Il a pas fini. Qui est le meilleur joueur de la pétanque, la Dream Team cyclisme?
Ouais, c'est moi, et de loin.
C'est vrai? Tu tiens ou tu pointes?
Je fais les deux, moi, parce que je joue tellement avec des gens médiocres comme Thierry Leroux qu'il faut que je m'adapte.
Le contraire m'aurait étonné. Merci Jérôme, on se retrouve tout à l'heure 19h dans l'After Tour. Restez bien avec nous sur RMC, il est 18h13 dans quelques instants dans l'intégral sport avec Stephen Brun. On reçoit Maxime Lefebvre, le nouveau coach du Paris Basketball au parcours bien atypique. Il va tout nous raconter, puis on parlera foot aussi avec les dernières rumeurs, notamment sur le banc de l'Italie et de la Belgique. Tu vas être surpris, Steve, des noms qui arrivent tout à l'heure. Je te tisse ça tranquillement. Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Flora Messi. 18h17 sur RMC. On est de retour dans l'Intégral Sport avec Stephen Brun. Stephen qui se frotte les mains.
Je suis content, je vais découvrir un coach.
On va parler basket dans quelques instants. Je vous rappelle le rendez-vous à 19h, l'After Tour avec Christophe Cessu et toute l'équipe pour revenir en longueur sur la 17e étape de ce Tour de France et la victoire de Jasper Philipsen. On va parler basket, donc, parce qu'on a la chance d'avoir avec nous en plateau le nouveau coach du Paris Basketball, Maxime Lefebvre. Bonjour Maxime.
Bonjour.
Salut Max.
Je te demande pas si tout va bien, je pense que t'es au top là.
Ouais, tout va bien, quelques jours mouvementés on va dire, mais tout va bien.
Tu vas nous en parler évidemment en longueur, il y a Félix Gabory, notre reporter basket qui est avec nous aussi. Salut Félix.
Salut Flora, salut tout le monde.
Qui a œuvré en coulisses pour que Maxime soit là aujourd'hui avec nous, donc Max, merci beaucoup Félix. Maxime, t'as même pas encore été présenté officiellement à la presse et tes premiers mots ça va être sur RMC, donc merci pour ça et j'ai envie de savoir justement quels sont tes premiers mots, ta réaction justement quand je te dis que tu es le nouveau coach du Paris Basketball.
Ouais, super content, impatient de commencer, vraiment excité de l'opportunité, de continuer tout ce qui a été fait avant moi, à continuer sur la lancée pour faire quelque chose de super intéressant.
Alors raconte-nous justement les dessous de cette signature, comment ça s'est passé? Est-ce que vous étiez déjà en discussion depuis un moment? Est-ce que c'est eux qui sont venus te chercher? Comment ça s'est passé?
C'était assez rapide en fait. Je ne connaissais pas David Kahn. Mais on avait des amis en commun et ils nous ont mis en relation. Et ça a pris assez vite, en fait. Il a vu que je connaissais Paris et Paris Basket. vraiment la façon de jouer, tout ça. Et donc, il a commencé à poser beaucoup de questions. Et il s'est dit, OK, c'est intéressant. Et moi, de mon côté, pareil. C'était quelque chose qui m'intéressait, puisque le projet, que ce soit sportif, revenir en France aussi. Donc tout ça, ça a collé en fait, au bon moment.
Et on va enfin rappeler ton cursus.
Mais parce que t'es personne. Que tu nous dis revenir en France, oui. Mais on va expliquer pourquoi tu dis ça.
Personne te connaît parce que t'es parti très tôt aux États-Unis pour jouer déjà à la fac et puis ensuite t'es passé sur le banc en NCAA. Maintenant, ça fait 7 saisons que t'étais assistant de Chris Finch au Minnesota Timberwolves. T'as côtoyé notamment Rudy Gobert. Le basket européen, c'est un basket qui est loin pour toi. Ça fait un moment que tu l'as pas côtoyé. Est-ce qu'il y a une mise à jour à faire?
Mise à jour, je sais pas. Enfin, j'ai grandi dedans déjà. Et puis, même si je suis aux États-Unis depuis presque 20 ans, j'ai toujours regardé le basket européen. J'ai toujours, quand j'ai du temps avec la saison NBA, mais c'est pas tout le temps, à la place de regarder les autres matchs de NBA ou des choses au télé ou des choses comme ça, je regarde l'Euroleague.
Avec le petit décalage horaire, c'est pas grave.
Ouais, bah, je les regarde pas en direct. Je les regarde coupés déjà pour gagner du temps. Mais c'est vrai que c'est toujours un basket que j'ai toujours aimé. Pour moi, c'est le basket le plus pur du monde, en fait. La possibilité de pouvoir coacher, que ce soit en Betclic ou en Euroleague, c'était difficile à refuser.
Mais j'imagine que 7 ans assistant coach de Chris Finch, t'avais aussi dans un coin de ta tête éventuellement devenir un jour head coach en NBA, qui est quand même une place exceptionnelle. Ça veut dire que je dis pas que tu fais une croix, parce que il y a des coachs qui sont passés par Paris Basketball qui sont aujourd'hui head coach en NBA. Mais c'est dur de dire j'arrête la NBA pour revenir en Europe. C'est un choix fort, quand même.
Ouais, je pense que c'est juste une étape de plus. Mais c'est pas la fin de la NBA. C'est pas revenir en Europe pour toujours, mais peut-être. Je sais pas. En fait, dans ma carrière, j'ai jamais fait comme ça. En essayant de savoir quel est le next step, en fait. J'ai juste fait mon travail le mieux possible où j'étais et j'ai jamais cherché en fait l'opportunité d'après, et c'est toujours l'opportunité d'après qui m'a trouvé. Là, ça s'est fait rapidement, on s'y attendait pas, et puis, mais voilà, c'est comme ça la vie, en fait. Donc il faut être prêt à prendre ça directement, quoi.
Maxime Lefebvre, le nouveau coach du Paris Basketball, est en direct dans l'Intégral Sport sur AMC.
Maxime, une question que se posent les fans du Paris Basket et de tous les fans de basket français. C'est quoi, si tu devais décrire ton identité, ta philosophie de jeu, quel style de coach tu es et à quoi on doit s'attendre l'année prochaine sur les parquets de Paris Basket?
Ouais, déjà, les grandes lignes, elles vont rester les mêmes. C'est un peu pour ça qu'avec ça a collé, en fait, directement. Parce que la façon dont j'ai toujours pensé à jouer, voulu jouer, c'était en fait très très proche de ce qui a déjà été fait avant. Donc ça va être jeu rapide en première intention, agressif des deux côtés du terrain, défensivement, offensivement. Je pense pas que ça va changer dans les grandes lignes. Après, évidemment, on va faire quelques trucs différents, mais ça va rester Paris Basket. C'est ça aussi qui m'a intéressé dans le job, c'est de pouvoir continuer sur la lancée du Paris Basket.
Et c'est aussi les critères du président quand il choisit David Kahn, quand il choisit son entraîneur, c'est garder cette philosophie, parce que Paris Basketball a un jeu un petit peu atypique, que ce soit en Betclic Elite ou en Euroleague. Il bouleverse un petit peu les codes, tu l'as dit, un pace qui est très élevé, il joue énormément de possessions, beaucoup de tirs à 3 points, des rotations aussi parfois à 4 ou 5 joueurs en même temps. C'est quelque chose que tu vas continuer, ça?
Ouais, c'est quelque chose qu'on veut faire. C'est quelque chose d'ailleurs que j'ai étudié d'ailleurs par le passé, parce que en fait l'été, quand la saison NBA est finie, j'aime bien regarder l'Europe, même partout, Australie, tout ce qui se fait. Et ce genre de truc, c'est quelque chose que je connaissais, la façon dont ils jouaient, tous les changements, les rotations, tout ce qui est défensivement, ce qu'ils font sur pick and roll. Tout, en fait, je connaissais déjà le truc. Et donc, ouais, moi, je veux pas changer énormément de choses. C'est quelque chose qui marche. C'est le basket moderne, je pense, c'est là où le basket va. Et donc, on va continuer ça.
Gianni Riffi aura toujours la wildcard offensivement.
Ouais, Gianni Riffi, il a intérêt à mettre des paniers.
En plus, Maxime, tu le connais, tu l'as côtoyé en Summer League avec Minnesota en 2024.
Ouais, c'est ça, ouais. Il était venu nous voir. On avait accroché directement, en plus. Puis c'est difficile de pas l'aimer, parce que c'est quelqu'un qui est pur, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui s'est un peu monté lui-même, en fait. Donc, ouais, on a gardé contact depuis là. Je l'ai eu un petit peu quand ça s'est fait. Il était super content. Donc ouais, je suis prêt et impatient d'être sur le terrain avec lui pour le coacher encore une fois. Quoi.
On est avec Maxime Lefebvre dans l'Intégral Sport sur RMC. Maxime, tu n'as que 39 ans, ça va être ta première expérience de head coach. Est-ce que ça te met un petit peu la pression ou au contraire justement ce projet emmené par le Paris Basketball est la meilleure façon de débuter dans le grand bain, j'ai envie de dire, dans ce costume-là?
J'aime bien quand tu dis j'ai que 39 ans en fait, des fois je me sens vieux.
J'en suis pas si loin, alors pour ça que je dis ça, peut-être je me rassure.
Donc ça fait plaisir. Évidemment, c'est une des questions que les gens vont se poser, c'est sûr. Ça fait beaucoup de temps que je suis dans le coaching. J'ai commencé juste après avoir fini la fac. J'ai travaillé avec des coachs qui sont super renommés, que ce soit Chris Beard en NCAA, après Chris Finch en NCAA, en NBA. J'ai connu des gens vraiment très très forts. J'ai appris de tout le monde. Et puis à un moment, il faut que ça soit le tour de quelqu'un d'autre.
tu vas être capable de pousser des coups de gueule, parce que quand on est assistant, on est surtout là pour faire le lien entre les joueurs. On est un peu, je vais pas dire le pote, mais on est le bon mec. Là, tu vas avoir le grand costume, ou à un moment donné, il va peut-être falloir mettre des coups de pression aux joueurs à la mi-temps ou sur un temps mort. Tu te sens capable de ça?
J'aime bien les coups de pression. Ouais. C'est pas un problème.
Parfait.
Ah, t'as dû le vivre aussi en NBA, justement. Qu'est-ce que ça t'a apporté comme expérience, toi, personnelle? Parce que ça fait très longtemps que t'as débarqué aux États-Unis. Tu parlais de la NCAA, donc qui est le sport universitaire aux États-Unis. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que, on parle beaucoup de la mentalité américaine, notamment, mais est-ce que ça t'a apporté quelque chose dans ta perception du jeu, dans la technique, dans la tactique aussi? Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette expérience-là?
Pour moi, ça m'apporte beaucoup. C'est un profil différent parce que, comme je disais, j'ai grandi en France, regardé le basket européen, ensuite je vais aux États-Unis. Je joue en université, après je coach en université, je vais en NBA, donc j'ai vu un petit peu tous les baskets. J'ai même coaché en high school, au lycée aux États-Unis, donc j'ai fait un peu de tout. Et ça permet d'être super polyvalent, de voir beaucoup de choses et de pouvoir de mettre beaucoup de choses en place. Donc ça va être intéressant, mais encore une fois, les grandes lignes vont pas changer. Mais je pense qu'on fera des trucs super intéressants.
Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans le staff NBA? Parce qu'on peut le rappeler, c'est des staffs pléthoriques. Déjà, vous étiez combien aux Wolves dans le staff?
Il y avait presque une quinzaine de personnes.
Ouais. Et qu'est-ce qui te marque le plus dans cette aventure?
Tu connaissais le prénom de tout le monde quand même?
Ouais, je connaissais. Ça fait 7 ans que j'étais là-bas.
C'est quoi qui te marque le plus quand on est assistant, quand on est sur un banc NBA comme ça, dans la grosse machine qu'est la NBA? Est-ce que tu as des trucs qui vraiment marquants qui te viennent en tête?
Surtout au début, quand j'ai commencé à être sur le banc, t'es à 5 mètres de LeBron, de James Harden, de Luka Doncic. Tu leur parles un petit peu sur le côté du terrain. Il ne faut pas trop les chauffer parce que ces gars-là, s'ils s'énervent, c'est mauvais pour toi. C'était une expérience super de ce côté-là. Et surtout, après voir ces joueurs-là, c'est bien, mais même les joueurs qu'on avait, nous, de pouvoir coacher des gars comme Anthony Edwards, Rudy Gobert, ce genre de joueurs, des joueurs vraiment de super haut niveau, de les côtoyer au quotidien, de voir sur quel bouton il faut appuyer. Tout le monde est différent psychologiquement, essayer de gérer les égos et tout ça. Donc de ce côté-là, la NBA, c'est vraiment ça.
Maxime, le recrutement a déjà commencé puisqu'ils ont signé Terry Tarpe, Tyson Etienne, un joueur brésilien, je ne veux pas écorcher son nom. Et il y a un gros CV qui arrive, qui est aussi un pari, qui est TJ Warren, que tu connais, parce qu'il me semble qu'en 2024, vous avez tenté de le relancer avec Minnesota. C'est un énorme CV. Est-ce que toi, tu as validé ces choix ou tu n'étais pas encore dans les petits papiers pour être coach et que tu vas devoir t'adapter à ces joueurs qui sont déjà là?
J'étais pas vraiment. Enfin, c'était en pourparler, mais ça s'est fait un petit peu avant moi. Mais je suis super content, surtout les gars qu'on a amenés. Le Brésilien dont tu parles, je pense que tu vas beaucoup l'aimer. Est tellement athlétique. Je pense que tout le monde va. C'est impressionnant.
C'est vrai.
Impressionnant. TJ, c'est un gars super bien en plus. Je l'ai eu au téléphone hier, il est super content de venir. C'est sa première expérience en Europe, donc je pense que je peux l'aider aussi à s'intégrer plus facilement, de fait que je le connaisse, que je connaisse le basket NBA. Et puis je pense que la façon dont on joue, je pense qu'il va être très très bon.
On est avec Maxime Lefebvre, le nouveau coach du Paris Basketball. Il y a une question qu'on t'a même pas posée et qui est un petit peu évidente aussi, Maxime. C'est, est-ce que ça a été dur de dire oui au Paris Basketball, de quitter ta vie aux États-Unis dans laquelle tu es depuis des années maintenant, pour revenir en France, comme tu le disais, parce qu'il y a des choix professionnels, il y a des choix personnels aussi à faire. Est-ce que ça a été un choix difficile?
Sur le plan basket, non, pas vraiment. C'était no-brainer, comme on dit aux États-Unis. Parce que c'est la possibilité de head coach, c'est la possibilité de coacher Paris, et coacher en Euroleague et en Betclic. Je pense que c'est quelque chose qui ne se refuse pas. C'est vrai que du côté personnel, c'est différent. Femme, enfant, devoir déménager en moins d'un mois et l'école, trouver tout ce genre de choses. Mais ouais, basket, c'était facile. c'était oui tout de suite. Après, il a fallu régler quelques problèmes. Convaincre ma femme que bon, c'est bien.
Mais je crois que ta femme qui est américaine,
ouais,
on le rappelle.
Américaine, ouais. Donc voilà, elle adore la France, donc ça devrait le faire.
Ça va, elle débarque à Paris, ça devrait aller. Félix, peut-être qu'on peut faire un point aussi sur, pour les gens qui nous écoutent, qui ne savent pas où se situe le Paris Basketball dans le basket français et le basket européen, parce qu'il dit, il joue également en Euroleague, je vais y arriver.
Ouais, c'est un peu un ovni, hein, le Paris Basketball dans le basket français. C'est un club qui a été créé toute pièce en 2018. Il n'existait pas avant. Et en l'espace de quelques années, c'est devenu une place forte du basket français. Ils ont déjà passé 2 ans en Euroleague. Ils vont y retourner encore pour une 3e saison. Champion de France en 2025 en battant Monaco, qui est un peu l'ogre du basket français. Vice-champion de France il y a quelques semaines en battant contre ce même Monaco, toujours en finale de Betclic Elite. Donc c'est un club qui fait tout très vite. Qui a l'habitude aussi, d'ailleurs la nomination de Maxime en est une preuve, d'aller très vite et d'innover surtout, de faire confiance à des profils qui sortent un peu de l'ordinaire, qui sortent du cursus français. C'est un petit événement, la nomination de Maxime Lefebvre, parce que t'es le premier français depuis 2022 à prendre les commandes de ce club du Paris Basketball. Donc voilà, ça fait 4 ans qu'on avait des coachs étrangers à la tête de Paris. Bon là, c'est comme t'es français, mais ça reste Maxime, ça reste quand même un coach qui a un cursus américain, on l'a très bien compris. Donc voilà, un club qui a l'habitude de pas faire comme les autres et qui ça lui a réussi plutôt bien depuis 2018.
Ouais, vas-y Steve.
Non, mais je voulais, Maxime, il y a quelque chose qui est la saison NBA. Moi, je la suis depuis beaucoup d'années. Ouais. La saison régulière, parfois, il y a un peu, il y a des matchs qui ne servent à rien. Tu perds, tu passes à autre chose parce que tu joues des back-to-back et tout ça. Là, tu vas arriver dans un environnement qui est totalement différent où every game matters, comme on dit en Euroleague. Tous les matchs comptent, tous les matchs sont importants, que ce soit en championnat et en Euroleague. Ça aussi, tu vas devoir t'adapter à tout ça.
Ouais, c'est sûr. Pour revenir sur ce que Félix disait aussi, c'est mes innovations, ambitions, tout ça, c'est quelque chose qui... C'était une des raisons pour lesquelles c'était facile de prendre cette décision. Sur le reste... c'est vrai que en NBA, des fois, c'est la saison régulière, ça peut être un peu soft de temps en temps, on va dire, pour être gentil. mais voilà, après, j'ai aussi coaché en NCAA, et NCAA, l'intensité, c'est très très fort aussi. Donc voilà, j'ai coaché aussi avec des coachs qui laissent rien passer. Qui demande vraiment de jouer très très dur, donc voilà, je sais l'intensité de
relais. Tu vas retrouver une routine que ça fait longtemps que t'as pas connue, les repas en commun, le même t-shirt, le même polo, pas de téléphone à table, tu vas redécouvrir tout ça.
Ouais, je suis content. Je suis content parce que aux NBA c'est téléphone à la mi-temps et tout ça, moi ça je devenais fou, je demandais pourquoi, c'est pas possible, qu'est-ce qu'on fait. Donc ouais, c'est vrai que moi je suis content de commencer cette expérience.
Et puis tu vas retrouver de la bonne gastronomie surtout.
Bah ouais, un petit peu de fromage, un petit peu de pain.
Maxime Lefebvre est avec nous, lui qui sera le nouveau coach, qui est le nouveau coach du Paris Basketball. Maxime, t'es un peu l'exemple aussi de la réussite des Français dans les staffs NBA, t'es un peu le précurseur aussi de ça, il y en a de plus en plus d'ailleurs, Félix, mais est-ce que tu sens que t'as amené aussi la possibilité à certains de tenter l'expérience aussi aux États-Unis, qui est un rêve ou parfois inaccessible pour certains, t'as rendu cette réussite possible en fait?
Ouais, j'espère, c'était un peu un début. J'ai toujours essayé de redonner quand les gens les appelaient, qui demandaient comment faire, qui rentraient en contact, comment t'as fait. J'essaie toujours de répondre le plus possible. Quand la Summer League à Las Vegas, tout le monde veut te rencontrer, tout ça, essayer de me libérer le plus possible pour essayer d'aider des gens à faire le même parcours, parce que c'est quelque chose de super intéressant. Mais ouais, j'espère que je sais pas si j'ai fait. Je pense avoir fait tout ce que j'ai pu de ce côté-là, mais c'était avec plaisir en tout cas.
Mais la NBA s'ouvre de plus en plus. Alors, elle a mis du temps à s'ouvrir aux joueurs européens. Ouais. Aujourd'hui, l'Europe domine quasiment presque la NBA. Vincent Collet était dans le staff des Cleveland Cavaliers. En Summer League, Fabrice Lefrançois, le coach de Cholet, Guillaume Bizard, le coach du MSB, ont fait partie des staffs de Summer League. Il y a des coachs européens aussi. Darko, le coach des Raptors. Igor Kokoskov aussi a coaché en NBA. Et c'est vrai que la NBA aujourd'hui prend pas mal d'exemples sur le basket européen. Il y a pas mal de plays aujourd'hui qui sont tirés du basket européen. Les coachs, les head coachs regardent aussi ce qui se fait en Europe, sur les Eurobasket, sur les Coupes du Monde, sur les Jeux Olympiques. Il y a une vraie influence du basket européen là-bas.
Ouais, bien sûr, et c'est pour ça que c'est... En fait, les franchises NBA, elles aiment bien avoir des nouvelles idées. C'est toujours intéressant pour eux. Et en fait, la NBA, en fait, il y a 30 équipes. Donc, je dirais pas que tout le monde joue pareil, il y a différents styles. Mais en Europe, il y a des centaines d'équipes partout que tu peux regarder. Donc, il y a beaucoup plus de chances d'innover. Il y a des clubs qui ont des plus petits moyens, qui doivent jouer différemment, qui doivent faire autre chose pour être compétitifs. Donc, il y a un peu plus d'innovation, je pense, en Europe. Et voilà, il y a des trucs qui commencent à NBA qui viennent en Europe, mais il y a aussi beaucoup de choses qui commencent en Europe, qu'on retrouve en NBA. Donc, ouais, ils sont super ouverts là-dessus. Tous les coachs en NBA veulent vraiment récupérer des idées, quoi. C'est surtout pour ça. C'est pour ça que tu vois des coachs européens en Summer League et tout ça. Là, ça leur permet de passer du temps avec eux, d'échanger, essayer de trouver des trucs nouveaux. Ils sont toujours à la recherche du petit truc qui peut les faire monter au-dessus, quoi.
Maxime, t'es arrivé à Minnesota. T'as mis aussi ta patte défensive, puisque Minnesota est devenue l'une des meilleures équipes défensives de la ligue. Sauf face à Victor Wembanyama et aux Spurs. Alors Rudy Gobert a très bien contenu Nikola Jokic, mais face aux Spurs, c'était plus compliqué, Maxime.
Ouais, il est un petit peu difficile à contenir, Victor. Donc c'est vrai que c'était difficile, mais c'est pas de notre faute. C'est juste un ovni, donc on peut pas faire grand chose.
Comment on prépare un scouting quand on joue Victor Wembanyama?
On prie.
Alors vous avez prié, mais vous avez aussi pris l'option d'envoyer du bois aussi. Hein.
Oui, il faut qu'il gagne quelques kilos. En fait, quand t'as pas trop d'options, c'est un petit peu la seule option que t'as, c'est essayer de le ralentir physiquement, de taper.
Vous l'avez fait péter un plomb, hein. Il a envoyé coup de coude à Nasrid.
Oui, mais ça n'a pas suffi.
Et contre Nikola Jokic, au tour précédent, c'était quoi le plan de jeu? Parce que là, pour le coup, Rudy Gobert, il l'a éteint quasiment, un des meilleurs joueurs du monde. Donc c'était quoi ton plan, toi, dans ta tête?
Rudy, pendant les dernières années, il a eu des bons moments, des moins bons moments contre Nikola Jokic. On a commencé la série en se disant, on va mettre Rudy dessus, on va jouer un contre un. Parce qu'en fait, Jokic, tu peux pas l'arrêter. Si tu fais prise à deux, il faut que je les passe. Si tu le laisses jouer tout seul, il va mettre 50 points. Donc à la limite, notre truc, en fait, nous, ça a toujours été, on préfère qu'il mette 50 points et
qu'il fasse pas briller, qu'il fasse pas 15 passes
tout le monde. Mais après, des fois, il arrive quand même à faire les deux. Il nous a mis 60 points une fois, je crois. Mais bon. Et donc là, c'est le début. L'intention, c'était Rudy en premier, et il y avait d'autres plans derrière. Mais Rudy, il a fait une série exceptionnelle. Physiquement, il a vraiment dominé Jokic. Il a fait péter un peu les plombs. Et donc, il n'y avait pas besoin de plan B. Et ouais, c'était ça. C'est Rudy qui a gagné la série, en fait.
Quel est ton rôle, ou quel a été plutôt, puisque maintenant c'est ton ancienne vie à les Timberwolves, quel était ton rôle auprès de Rudy Gobert? Est-ce que tu travaillais d'ailleurs exclusivement avec lui, ou comme le rappelle Stephen, est-ce que tu travaillais globalement la défense? C'était quoi ton rôle exactement?
J'avais plusieurs rôles, en fait. Le premier, c'était la défense, beaucoup. On avait Alston Turner, qui était notre defensive coordinator, qu'on appelle. On appelle ça. Je travaillais main dans la main avec lui sur la défense. Donc, toujours échanger des idées, mettre en place des trucs défensifs. Après, sur le player development, j'avais trois joueurs dont j'étais responsable, dont Rudy Gobert, Mike Conley. Après, on avait Carl Anderson qui est revenu, donc je m'occupais. Et puis, beaucoup de scouting, de préparation de matchs. Sur les 82 matchs NBA, j'avais été responsable pour 16 des matchs des 82.
Ah, vous répartissez des matchs dans la saison?
Il y a 5 ou 6 assistants qui se répartissent les matchs. Donc, tu fais la prépa, et puis voilà, tu présentes aux joueurs, tu présentes aux coachs. C'est toi qui mets en place ce qu'on va faire. Tu demandes, tu montres au coach, et après, c'est lui qui valide ou pas.
Donc, sur les 16 matchs que tu as préparés, j'espère que tu en as gagné un max, sinon.
15 et 1, je crois, non?
15 et 1.
C'est vrai?
On ne comptait pas.
Quel est le joueur le plus difficile à contenir en NBA?
Le joueur le plus difficile à contenir, je dirais Luka Doncic.
Parce qu'il a beaucoup le ballon dans les mains?
Et il a beaucoup le ballon dans les mains, et c'est un peu pareil que Jokic, en fait. Si tu le laisses jouer, il est impossible à arrêter, parce qu'il fait genre 2m3, et puis il va où il veut, et puis
à son rythme.
Au-dessus, à son rythme, il se fait jamais vraiment presser. Si tu mets deux gars sur lui, il va toujours trouver la passe qu'il faut. Après, tu en gros pries que les autres ratent des shoots ouverts. Donc, il faut essayer de
choisir son poison.
C'est ça. Donc, il faut changer, quoi. Tu peux pas lui donner la même dose sur 48 minutes, la même chose, parce qu'il va vite comprendre.
Et il faut le faire défendre aussi.
Et il faut le faire défendre, il faut l'attaquer de ce côté-là, il faut le presser tout terrain pour essayer de le fatiguer. Ce qu'on a fait en playoff il y a 2 ans, ça avait marché. Mais ouais, c'est un joueur impressionnant.
Les Knicks champion NBA, t'es surpris?
Surpris, non, parce qu'ils ont une vraie cohésion. L'équipe est vraiment ensemble. J'ai pas mal de copains, en fait, dans le staff. Et ouais, c'était. Après, ils ont un super gros roster aussi. On va pas dire qu'ils avaient. C'est juste que les gars s'entendent bien. Mais pas surpris, non. En plus, j'étais super content pour Carl Anthony Towns, que j'ai
fait
pendant plusieurs années. Vraiment content pour lui, et puis une star comme Brunson, qui est un gars qui fait tout bien, en fait. C'est un gars bien humble, toujours dans le gymnase en train de travailler, Donc voir des gars comme ça réussir, c'est, si c'est pas nous qui gagnons, c'est voilà.
Vous êtes comme un gym rat.
Ouais.
Gym rat, c'est ça.
Et on notera le super accent anglais quand même, américain même, je dirais. Là on est sur l'accent américain.
C'est mieux que Steve, c'est mieux que Stephen quand même. Alors, juste en parlant de stars, là tu viens de parler de Brunson, de Karl Anthony Towns, Anthony Edwards qui est la superstar de Minnesota que tu as côtoyé pendant plusieurs années, il est comment en dehors, en coulisses, si
tu veux.
Est-ce qu'il est comme comme nous on le voit ou pas?
Ouais, il s'arrête jamais, il, on peut dire en France parce que c'est pas des gros mots, mais il talk shit part tout le temps.
Il parle beaucoup.
Il s'arrête toujours. C'est un très très gros compétiteur en fait. Dès qu'il te voit, il veut parier $100 s'il met le prochain shoot. Dès qu'il voit un autre gars shooter, il va aller jouer contre lui et le battre.
Il est drogué à ça presque.
Ouais, dès qu'il joue un contre un, enfin dès qu'il fait des shoots, tu lui dis ouais mais moi tu peux pas scorer sur moi. Il dit vas-y viens vas-y. Et après tu joues pendant 30 minutes. Donc il s'arrête jamais. Super compétitif comme gars. Très très gentil en fait, super gentil, un gars vraiment vraiment en or en fait, un cœur en or, vraiment un plaisir à coacher. Après il est intense, très très intense, et voilà, t'es pas superstar sans avoir un peu d'ego, sans avoir un peu d'intensité.
Maxime Lefebvre, le nouveau coach du Paris Basketball, est avec nous dans l'Intégral Sport. Puisqu'on est tous là pour parler basket, je voudrais qu'on évoque LeBron James. Que va-t-il faire la saison prochaine? Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Je ne sais pas si vous avez vu, mais Miami a fait fuiter une vidéo sur sa chaîne YouTube qui annonce l'arrivée de LeBron James dans la franchise floridienne, avant de supprimer la vidéo, avant de prétexter.
C'est une conférence de presse d'arrivée de LeBron James.
Avant d'annoncer une erreur. Voilà,
Il y a trois mecs à Pôle emploi pour Miami.
Mais est-ce qu'on peut y voir un signe? On rappelle qu'il avait évolué il y a plus de 16 ans au Heat. Il a annoncé évidemment à la fin de la saison dernière qu'il arrêtait avec les Lakers. Qu'est-ce que t'en penses toi, Maxime? Coïncidence totale? Est-ce qu'il y a une forme de communication derrière de Miami pour attirer un petit peu l'attention? Qu'est-ce qu'on doit y voir?
Je sais pas, moi il venait à Minnesota, donc je sais pas.
C'est de la vraie info ça ou pas?
Non, c'est pas de la vraie info, mais c'est le meilleur endroit pour lui pour venir jouer au basket. Il peut jouer poste 4, il peut jouer avec des vrais gars, il y a Rudy et Jalen McDaniels qui peuvent l'aider défensivement, il y a LaMelo et Anthony en attaque. S'il veut gagner un titre, il faut qu'il aille à Minnesota. Je travaille plus pour eux, mais
j'ai l'impression que tu fais encore du lobby pour eux. T'en penses quoi, toi, Steve?
Je sais pas. C'est très étrange ce qui s'est passé du côté de Miami. C'est rare de voir les franchises NBA faire ce genre d'erreur-là, parce que tout est très carré, très professionnel dans les franchises NBA. D'avoir lancé comme ça un lien YouTube pour la conférence de presse de présentation, c'est bizarre. On sait que Miami fait partie de la shortlist. Il reste plus beaucoup d'équipes. Rich Paul, son agent, a dit qu'à un moment donné, il avait choisi son équipe et que finalement, il avait fait marche arrière parce qu'il avait besoin de réflexion. Maintenant, il n'y a plus beaucoup d'équipes, je crois, sur la shortlist. Il y a Miami, Cleveland, peut-être les Warriors qui sont là, avec Draymond Green qui fait un peu son du lobbying pour venir aux Warriors.
Mais c'est Philadelphie aussi.
Minnesota.
Mais c'est vrai que ça met la NBA un petit peu en émoi. Adam Silver a mis un petit coup de pression aussi parce qu'il est sur le calendrier et que quand tu fais un calendrier NBA, quand il y a des bandes dans une équipe, c'est pas le même calendrier sur les Christmas Games, sur le Martin Luther King Day. Il y a des affiches aussi à mettre en place, donc tout le monde est suspendu au choix de LeBron James. Après, ça reste encore un bon joueur de basket, donc l'équipe qui va l'accueillir, c'est tout bénef, je pense.
Oui, a priori.
Même si ce sera pas Minnesota, mais c'est pas grave.
Même s'il l'espère très fortement, Maxime, est-ce que tu vas continuer d'ailleurs de suivre évidemment ce que font.
Il va avoir beaucoup moins de temps quand même.
Ben oui, parce que là, le décalage horaire aussi, tu vas le prendre dans l'autre sens. Finalement, est-ce que tu vas continuer de suivre et la NBA, évidemment de plus près les Timberwolves?
Bah, surtout les Timberwolves. Je pense pas que j'aurai le temps de tout suivre, mais de suivre les Timberwolves, les joueurs, les coachs, c'est tout. Tous mes gars, donc je vais essayer de les suivre le plus possible. On va regarder les matchs en résumé et pas complet, ou alors juste les highlights, et puis voilà. Mais ouais, je vais continuer à suivre, et puis je suis super impatient de voir ce que ça va donner avec le nouveau roster.
Ouais, effectivement, nous aussi on est impatient de cette nouvelle saison. Merci.
Non, je voulais juste terminer parce qu'on l'a pas signalé, tu vas accueillir Pierre-Yves Poupet.
Mais oui.
J'imagine que lui va forcément.
L'ancien coach de l'ASVEL.
L'ASVEL va forcément t'aider aussi sur l'adaptation du jeu européen, sur le scouting individuel des joueurs en Euroleague, parce que ça fait 2 ans qu'il joue l'Euroleague, et j'imagine que ça va être un élément important pour toi.
Ouais, c'était le but en fait. Dès que j'ai commencé à parler à David Kahn de ce job, j'ai commencé un peu à penser à comment monter le staff et tout ça. Je connaissais pas Pierre-Yves. Mais on a des amis en commun, et j'en avais entendu tellement de bien, tant en tant que coach qu'en tant que personne. En fait, c'est un nom dont moi et David, on est tombé d'accord depuis direct. On s'est dit, ouais, il faut aller chercher Pierre. Pour ce que tu viens de dire, l'expérience Euroleague, l'expérience de head coach, il était assistant avant en Euroleague, de ce côté-là. Je pense que ça va être quelqu'un qui va être super important pour notre staff.
Assistant numéro 1 pour toi?
Ouais, ouais, bien sûr.
Très belle équipe à venir.
Prochaine, pour le... Maxime, ça va Maxime versus Tipeee.
Ouais, exactement, c'est vrai.
Sur le banc de touche de l'Asvel.
Ça, et c'est pas mal finalement. Tu vois, la NBA, elle est jamais très, très, très loin finalement de toi. Merci beaucoup, Maxime, merci d'avoir beaucoup, été Maxime. Avec nous. Et tes premiers mots en exclusivité pour RMC. On est ravis de t'avoir accueilli. Et on te souhaite le meilleur pour la saison avec le Paris Basketball. Merci beaucoup, Maxime. Merci beaucoup. Merci, Félix aussi, merci, d'avoir Félix, été avec nous. Stephen, tu ne bouges pas même si on ne parle plus basket et NBA. Oui, on va parler foot dans quelques instants avec
gros
les petits points sur.
Gros fou, j'ai l'impression.
Oui, il se passe beaucoup de choses sur le banc des sélectionneurs, notamment 18h43. Restez bien avec nous. L'Intégral Sport revient tout de suite.
RMC Intégral Sport.
Flora Messi. 18h45 sur RMC. Vous êtes bien dans l'Intégral Sport. C'est la dernière ligne droite avant de retrouver l'after tour des 19h avec Christophe Cessieux, toute l'équipe, pour revenir sur la 17e étape de ce Tour de France et la victoire de Jasper Philipsen. Mais avant cela, on est toujours avec Stephen Brun et on va parler football tout de suite et notamment Mercato avec Clément Brossard. Salut Clément.
Salut Flora, salut Steve.
Salut Papy.
Bonjour à tous.
La grosse info du jour, Clément, qu'on n'avait pas forcément vu venir, celle-là, c'est la Fédération Italienne de Football qui s'intéresse à Pep Guardiola pour devenir le nouveau sélectionneur.
Et si c'était le prochain visage de la Nazionale et Pep Guardiola, on est encore loin de ça, mais le nouveau président de la Fédération Italienne, Giovanni Malago, a confirmé des discussions avec l'ex-entraîneur de Manchester City. Alors on sait que le projet du nouveau sélectionneur de la Squadra Azzurra est piloté par deux légendes, Paolo Maldini et Leonardo, qui se sont déplacés à Barcelone le week-end dernier pour tenter de convaincre Pep Guardiola. On est encore très loin d'un accord, l'état-major italien le sait, et dans la liste des prétendants, il y a d'anciennes gloires aussi de la Nazionale, et l'ex-maestro André Pirlo, un homme qui connaît bien le poste, Roberto Mancini, champion d'Europe avec l'Italie notamment. Et ça, c'est des cibles qui paraissent plus probables, mais Pep Guardiola est là, bien dans la course.
Ah, tu l'avais vu venir, Stel?
Non, pas vraiment, parce que dans le discours de Pep Guardiola, déjà, ça a été un crève-cœur pour lui de dire stop. Du côté de City, et t'as l'impression qu'il était parti pour souffler un petit peu parce qu'il était dans une belle machine à laver depuis pas mal d'années, ouais, avec Manchester City et toute la pression qui va avec au quotidien. Donc je le pensais capable de faire un petit break pour souffler, pour voir ce qui se passe et puis attendre éventuellement un poste et profiter des siens pendant une petite année sabbatique. Après, quand
c'est quand même un beau projet, hein, t'imagines.
C'est un beau projet. Le problème, c'est que c'est tu peux pas faire pire que les prédécesseurs avec l'équipe d'Italie. T'as l'Euro qui arrive, la Coupe du Monde en Espagne qui arrive, ou celle-là, faudra pas la louper. Alors c'est une pression, certes, parce qu'il y a tellement d'attentes. Le foot en Italie, c'est quand même quelque chose d'énorme. Et ce pays-là est en souffrance avec ce sport-là depuis pas mal d'années. Donc il y a une autre forme de pression aussi, c'est remettre l'Italie tout en haut. Du football mondial.
Genre retrouver la Coupe du Monde, ce serait bien, et puis après effectivement avoir des ambitions.
Exactement, après quand Leonardo et
Maldini.
Et Maldini viennent frapper à ta porte, discuter, s'asseoir dans ton canapé.
Là, t'écoutes quand même, non?
T'écoutes, forcément, t'écoutes parce que c'est le projet est attirant, mais je trouve que c'est un très bon choix. Maintenant, c'est pas parce que tu mets Pep Guardiola sur le banc de touche que les joueurs qui sont sur le terrain vont tout d'un coup être très bons. Il y a aussi un projet de formation, de renouvellement de joueurs et trouver des joueurs capables d'assumer aussi la responsabilité et d'être bon sur le terrain, parce qu'il y a, c'est le néant, hein, pour l'instant, l'Italie sur le terrain. Donc Pep Guardiola, il va pas inventer des joueurs non plus, mais c'est déjà bien de l'avoir sur le banc de touche.
Ça, c'est sûr que c'est un sacré chantier de reconstruction, mais quand on a vu ce que Pep Guardiola a fait avec City, effectivement, on comprend que la fédération italienne s'y intéresse.
City, il y a un chéquier. Ouais. Quand tu es sélectionneur, l'argent,
pas le choix.
Ça sert à rien.
Oui.
Et tu peux être bon entraîneur et mauvais sélectionneur.
C'est ça aussi, c'est que ce sera une première expérience de sélectionneur pour lui. C'est aussi complètement différent. On va passer au mercato maintenant. Il y a un homme qui s'est illustré pendant cette Coupe du Monde et notamment pendant la finale, c'est évidemment Ferran Torres. Et du coup, il est sur le retour, sur le devant de la scène maintenant. Et tout le monde s'intéresse à lui.
L'attaquant de 26 ans, buteur de la finale de Coupe du Monde, serait dans la shortlist du PSG. Ça va t'intéresser, Stephen, pour la saison qui arrive. Son contrat avec le Barça s'arrête l'année prochaine. On sait qu'il est très gourmand, notamment. Il demande beaucoup aux Catalans. Donc, ils ne sont pas vraiment emballés pour l'instant pour le prolonger. Et ça peut profiter au Paris Saint-Germain. On sait que Kanginli, notamment, a quitté le club. Que Gonçalo Ramos, pardon, aussi. Bradley Barcola pourrait aller voir ailleurs. Ça serait une bonne solution, Ferran Torres, pour venir au Paris Saint-Germain.
Oui. Alors c'est un mec qui a une hype monumentale, hein, quand t'es le seul buteur en finale de la Coupe du Monde. Tout d'un coup, ta cote remonte.
Parce qu'il était très très critiqué, hein, oui, Ferran Torres.
Oui,
hein.
Oui. Et peut-être qu'aujourd'hui les supporters du Barça, enfin, t'as mis le but qui a fait que ton pays est devenu champion du monde. Les supporters du Barça, peut-être qu'ils aimeraient bien avoir l'icône nationale rester dans leur effectif. Maintenant, c'est un joueur qui est très intéressant, très polyvalent aussi, capable de jouer en neuf, être le backup d'Ousmane Dembélé et reprendre le rôle de Gonçalo Ramos, même si Gonçalo Ramos a toujours une attitude d'aptitude irréprochable avec très peu de minutes. Il faut que Ferran Torres aussi s'habitue à ça. Il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite. C'est un mec qui va vite. C'est un très beau joueur de football. Il faudra voir si Barcola part aussi. Il y a des minutes à prendre aussi sur un côté. Mais et surtout Luis Enrique le connaît. C'est lui qui l'avait lancé, je crois, avec l'Espagne, avec le Barça ou avec la sélection espagnole aussi. Donc écoute, j'aime bien ce garçon. C'est un beau joueur de football. Et je le verrai bien au Parc des Princes, pas très loin d'ici.
Avoir joué, ça c'est sûr, mais ça en dit long aussi sur les envies du Paris Saint-Germain aussi pendant ce mercato.
Les ventes de Ramos et de Ganguini, ça a rempli les caisses. Si Barcola part, il y a de l'oseille à dépenser.
À Kliouche qui en approche aussi. Voilà, il y a du monde a priori, Clément. On parle quand même de
Diomandé aussi.
Mais si les négociations sont au point mort sur la prolongation avec le Barça, ça veut peut-être dire aussi que le prix sera un peu à la baisse.
Oui. Voilà.
Il peut s'engager dans un bras de fer, même si ça ressemble pas trop aux joueurs avec le club catalan, mais c'est possible aussi.
En tout cas, le transfert ne montera pas au prix de notre ami Rodgers de Chelsea.
On va en parler, t'inquiète pas. Si on a le temps, on va l'évoquer. On va juste parler de l'autre club parisien, le Paris FC, qui lui aussi bouge beaucoup pendant ce mercato, Clément.
Oui, il veut passer à la vitesse supérieure, le Paris FC. Il met la main au porte-monnaie. Il y a eu quelques jours l'officialisation de Pablo Pagis. C'est pas mal, Pablo Pagis, dans secteur offensif. Et il sera renforcé aussi, ce secteur, par l'attaquant Lassine Sinayoko, qui arrive d'Auxerre après un bras de fer, là aussi, avec le club auxerrois. Donc ça va être assez intéressant sur le plan offensif. Vous ajoutez à cela le milieu de terrain rémois Patrick Zabi, recruté en milieu de saison dernière, le défenseur Diego Coppola et le titi parisien Emmanuel Mbemba. C'est un recrutement assez intelligent. Ils veulent passer un cap, ils veulent arriver dans la première partie de tableau, et pour l'instant ils mettent les moyens, les Parisiens.
Bah, l'année dernière on se demandait un petit peu, quand on a vu la famille Arnaud prendre les rênes, on s'est dit allez, ça va envoyer. Et puis finalement l'année dernière ils n'ont pas tant envoyé que ça, peut-être un peu au mercato d'hiver parce qu'ils voyaient qu'ils étaient en difficulté. Ils ont commencé à recruter, se faire prêter des joueurs, et puis là c'est l'année 2. À un moment donné, Paris FC a peut-être envie aussi d'aller tutoyer une Coupe d'Europe, même une petite Coupe d'Europe.
Pour l'instant, il y a des ambitions, ouais.
Voilà, ils ont perdu Comboiré, ils ont récupéré Rosenior, qui lui aussi doit un petit peu se racheter de ce trauma à Chelsea, où il est parti Strasbourg pour Chelsea. Finalement ça a été une catastrophe, et lui aussi il doit se remontrer. Zabi à 25 millions, c'est cher, mais c'est un très bon milieu de terrain. Avoir confirmé que Coppola, qui était très bon l'année dernière sur la
il
fin
était
de saison. Voilà, Sinayoko, valeur sûre de Ligue 1. Pour l'instant, l'effectif me plaît. Maintenant, il faudra voir comment Rosenior est capable de faire jouer cette équipe-là.
En tout cas, c'est sûr que le projet prend forme, et on verra effectivement ce que ça donne, notamment pour la reprise. Tu parlais justement de ce transfert record de Rodgers. Tiens donc, c'est encore du côté de Chelsea que ça se passe.
117 millions de livres, 137,6 millions d'euros.
La bibliothèque, hein.
Ouais, c'est pas mal, hein. Le chiffre dingue pour le transfert de l'attaquant des Sioux Lions à Chelsea, qui rajoute un membre de plus à son effectif déjà pléthorique. Il s'est engagé aujourd'hui, devient le cinquième plus cher joueur de l'histoire du football, le plus cher pour un Anglais. Il rejoint les Blues jusqu'en 2033. La Première Ligue a déjà dépassé le cap du milliard en termes de transactions cet été. C'est que le début du mercato.
On voit l'évolution, c'est fou quand même l'évolution des chiffres, parce qu'on on rentre direct dans le top 5 des transferts les plus chers de l'histoire, et ce n'est entre guillemets que Rodgers.
Ouais, alors c'est un joueur correct, il fait une belle saison avec Aston Villa, avec Unai Emery, il gagne la Ligue Europa, la Coupe du Monde, il est plutôt bon, il fait demi-finale avec l'Angleterre.
15 buts, 15 passes cette saison, le double-double.
139 barres. J'ai l'impression que Chelsea, c'est quand même des bons pigeons.
C'est souvent comme ça, hein, dans les transferts anglais, dans deux clubs anglais, c'est souvent un peu surpayé.
Il n'y a pas de Coupe d'Europe. Ils ont terminé 10e la saison dernière. Chelsea, ils se retrouvent, ils ont 39 joueurs. Tu peux en qualifier que 25 en Première Ligue. Qu'est-ce qu'ils vont faire de tout ça? Parce qu'ils ont, un paquet de joueurs. Il y a des mecs qui retournent de près, qui reviennent de près. Il y a un embouteillage derrière en défense centrale et sur les côtés. Devant, ils ont aussi. Écoute, à voir. Ils ont des bons joueurs. Il y a des beaux joueurs de football. Maintenant, s'ils sont pas européens, c'est catastrophique. C'est catastrophique parce qu'on parle de Brendan Rodgers, mais ils ont déjà envoyé 50 barres sur un mec aussi au mercato. Ils sont quasiment à 250 millions dépensés le mercato. Ça fait pas longtemps qu'il a démarré. Il en reste encore, hein, Flora. Donc je pense qu'ils vont encore en envoyer. Écoute, pour l'instant, c'est Xabi Alonso qui va récupérer les rênes de cette équipe-là. Mais le but de Xabi Alonso, ça va être de dégraisser. Et surtout, Chelsea, avec les joueurs qu'il y a, l'Osée qu'il y a, c'est non de terminer 10e. C'est minima, je dis minima, top 6 normalement chaque année en Première Ligue. Hein.
Vous avez 5 gardiens sous contrat, ils avaient cette saison. Voilà. Est-ce que ça sert à quelque chose? Je ne sais pas.
Bien évidemment.
Il récupère Mike Penders qui était à Strasbourg.
Ah ouais, non, mais à chaque fois que tu cherches un joueur, il est forcément un lien avec Chelsea quelque part, de toute façon. Une dernière info avec toi concernant un ancien champion du monde.
Nzonzi, Stephen Nzonzi, Stephen est en face de moi. Accord de principe entre Stephen Nzonzi et Dunkerque. 5 ans après son passage à Rennes, le milieu de terrain champion du monde 2018, hein, pourrait faire son retour en France dans le club nordiste. Il a 37 ans, 20 sélections. Il était à ce jour sans club depuis son départ de Stoke City en fin de saison. Il a beaucoup voyagé aussi, Qatar, Turquie, Iran sur ces dernières années. Mais voilà, il pourrait apporter un peu d'expérience au Maritime. Et c'est surtout rare de voir un champion du monde
en Ligue 2.
Sacré en Ligue 2. C'était arrivé avec Bernard Diomède, notamment, qui avait rejoint Créteil après son sacre en 1998. Voilà, Stephen Nzonzi qui pourrait se refaire un petit peu la cerise pour finir sa carrière en France.
C'est les petites infos mercato qu'on aime bien, comme ça. On va suivre.
Voir évidemment. Si il est complètement cramé ou pas, voir s'il peut donner.
Évidemment qu'on regardera. Merci beaucoup, Clément, d'avoir été avec nous. Steve, merci beaucoup. On se retrouve demain, 18h pour l'Intégral Sport. Vous restez bien sur RMC, les 18h55. Tout de suite, c'est l'After Tour avec Christophe Cessieu et toute l'équipe. Très belle soirée sur RMC.
RMC Intégral Sport.